Dans les derniers jours, dans la région de Montréal, il y a un couple dit mixte, donc un couple où la femme est autochtone et le mari ne l'est pas, qui ont été expulsés d'une réserve autochtone, la réserve de Ganawagé, dans la région de Montréal. Pour comprendre un peu pourquoi la loi fédérale permet d'exclure des couples mixtes, j'ai au bout du fil Michèle Audette, c'est l'ex-présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada. Michèle Audette, bonjour.
Bonjour.
D'abord, pour bien comprendre ce qui se passe, à quand remonte le règlement qui permet à certaines réserves autochtones d'exclure des couples qui sont jugés pas assez autochtones ou mixtes?
Bien, pour que les gens comprennent pourquoi Ganawagé en est rendu là depuis 1981, c'est que la loi sur les Indiens, le jour où elle a été imposée au sein de nos nations, et ce, à partir de 1859, c'est ce moment-là où la loi déterminait qui était indien, qui ne l'était pas. On ne parlait plus de citoyens d'une nation, mais on devenait des sauvages en vertu d'une loi. Alors, de 1859 jusqu'en 1985, toutes les femmes indiennes qui mariaient des non-indiens étaient expulsées automatiquement. Il a fallu aller jusqu'en Cour suprême du Canada et au niveau des Nations unies pour modifier cette discrimination-là basée sur le sexe. Par contre, Ganawagé a vu la chose venir et s'est dit, c'est pas à Ottawa de dire qui est indien chez moi et je vais me développer un moratoire, un règlement pour définir les critères qui vont autoriser un Mohawk de pouvoir habiter sur le territoire.
Est-ce que c'est alors, ce qu'on appelle les fameux codes d'appartenance?
C'est exact, parce que 1985 n'a pas été adopté du jour au lendemain, ce projet de loi-là, mais ça a forcé les communautés à adopter leur code d'appartenance. Et Ganawagé, dans son approche, a plutôt opté pour une approche restrictive, donc très sévère, pour faire en sorte que aujourd'hui on se retrouve avec ces expulsions-là que je déplore, je vous dirais, là, pour des raisons de sécurité et de droits de la personne. 81, une petite partie de la population qui ont le droit de vote dans la communauté, près d'une centaine, décide d'adopter ce moratoire-là quand on sait qu'il y a des milliers d'autres gens sur le territoire même qui n'ont pas voté en faveur ou en défaveur. Donc, c'est vraiment une minorité qui décide, qui aujourd'hui, on voit là, les effets là, dévastateurs de ce moratoire-là.
Est-ce qu'on a un ordre de grandeur de cette minorité? Parce que la communauté de Ganawagé, donc, est quand même, il y a quelques milliers d'habitants là dans cette réserve.
C'est exact, quelques milliers d'habitants. On parle en 81, il y avait pas loin de 4000 personnes qui étaient aptes à voter en faveur ou en défaveur pour le moratoire, pour ou contre. Seulement 121 personnes vont avoir utilisé leur droit de vote et participer à ce qu'on appelle aujourd'hui le moratoire de 81. Ce que je déplore en plus dans ce moratoire-là, c'est que on m'a donné comme excuse, il n'y a plus de discrimination, c'est homme ou femme Mohawk qui marry out, qui marie à l'extérieur, est automatiquement expulsé avec sa famille et les enfants. C'est plus juste les femmes qui sont touchées par ça. Par contre, on remarque que c'est quand même une culture de la loi sur les Indiens, un règlement de la loi sur les Indiens. Parce que les Mohawks n'avaient pas du tout cette façon de faire. Il y avait les mères de clan, où est-ce que les femmes avaient un rôle extrêmement important. Alors, pour revenir à ça, c'est qu'aujourd'hui, on voit seulement les familles unis avec des Québécois, des unions avec des Québécois ou des Canadiens, mais dans les faits, ce moratoire-là va beaucoup plus loin. Un Mohawk avec un non-indien, premier critère d'expulsion. Le deuxième critère d'expulsion est un Mohawk uni, union de fait ou marié, avec une autre nation autochtone, fait partie des critères d'expulsion. Et la dernière qui m'a assommée, un Mohawk uni ou marié avec un autre Mohawk d'un territoire voisin, on peut parler de Kanasitake ou d'Akwesasne, peut aussi être ciblé pour l'expulsion. Donc, on parle là, depuis 81, d'atteindre une pureté, mais qui est en fait, pour moi, c'est incroyable jusqu'à quel point on va cibler là, des gens qui n'ont pas à être ciblés. Là.
Vous parlez de pureté, c'est un mot qui est très fort.
Ben, c'est quand on voit les pancartes de manifestation que votre collègue va avoir filmé lors de tout ce grand rassemblement-là qu'il y a eu devant la maison de Mme McCumber et sa famille, qui disait « pure blood », nos territoires, il parlait de pureté, alors que ça a toujours été des nations très ouvertes, des nations qui ont adopté, des nations qui ont échangé avec d'autres nations aussi, et aussi avec la société canadienne. Alors que dans la vraie vie, il y a des milliers de gens autour de ce petit groupe-là qui n'osent peut-être plus parler ou n'osent pas parler par peur de représailles, mais qui a peut-être envie de dire non, on n'est pas raciste, on est plutôt ouvert et on a décidé de s'unir avec une autre nation, une autre culture, une autre citoyenneté, justement parce qu'on a cet esprit-là d'ouverture. Mais le noyau étant très fort en ce moment, les médias sociaux vont amener cette image-là. Et merci aux autres collègues de la PTN puis de Radio-Canada de dire non, 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 il y a une autre réalité où là, des vraies familles ont peur de ce moratoire-là et des effets qu'on voit là.
Le couple expulsé dans les derniers jours, donc, était une femme autochtone et un homme né hors réserve. Est-ce que vous voyez là-dedans un retour un peu à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'on expulsait surtout les femmes autochtones mariées à des non-autochtones?
C'est exactement le même cauchemar qui revient. Nos mères, dont la mienne, dont Mary Two Axe, une femme de Ganawagi, qui, elle, va avoir amené sa place publique en 1969 parce qu'elle revenait chez elle et que son chef et ses conseillers lui disaient de vive voix, tu ne peux pas vivre ici et tu ne pourras même pas être enterré à Ganawagi. Et dans ce même village, il y avait un cimetière pour chiens, alors que son chien bâtard, Madame Two Axe Early, lui avait le droit d'être enterré. Alors, ça a été son cheval de bataille pour dire un instant, je suis née Mohawk, je vais mourir Mohawk, et ce, sur mon territoire. Et grâce à elle, des milliers de femmes au Canada ont été en mesure de retrouver ce droit-là de pouvoir habiter dans sa communauté. Malheureusement, on n'a pas honoré le travail à Ganawagi de cette femme-là parce que depuis 81, on va empêcher. Et j'ai rencontré beaucoup de femmes qui, à l'époque, ne pouvaient même pas retourner dans leur maison familiale, même après le décès de leurs parents ou de leur père ou de quelqu'un de leur famille, sous prétexte qu'elles avaient marié à l'extérieur. C'était des cas isolés. La différence dans ce cauchemar-là aujourd'hui, c'est qu'il y a des hommes autochtones qui se lèvent et qui dénoncent le moratoire, des hommes Mohawks. Et ça, pour moi, là, c'est extrêmement important. C'est une première. Il ne faut pas perdre cette solidarité ou cette démarche-là que nos hommes, maintenant, vont marcher côte à côte avec nos femmes Mohawks là, sur le territoire.
Comment mettre fin à cette pratique? Est-ce qu'il y a une possibilité?
Peut-être pas de ma génération, si je reste réaliste. Par contre, il faut garder ce momentum-là tant au sein de la communauté, et pas seulement à Ganawagi. On parle d'éducation populaire. On parle aussi de responsabilisation de la part du ministre des Affaires indiennes qui, lui, pourrait faire des pressions auprès des conseils de banque, dire, écoutez, vous ne pouvez pas aller à l'encontre des chartes, des conventions ou de la Constitution canadienne. Oui, vous voulez avoir un gouvernement autonome, mais il reste qu'il y a un droit international, il y a un droit de la personne qu'on s'est donné comme balise, façon de faire. Donc, faut respecter ça et de pas donner carte blanche. Quand on a un ministre qui demande de l'imputabilité aux affaires indiennes, au sein des communautés, pourquoi il ne demande pas non plus la protection des droits de la personne? Alors, moi, je pense qu'il y a cette capacité-là. Il y a le Québec aussi qui a un rôle important à jouer pour toute l'éducation qui doit se faire au sein de nos écoles sur une relation beaucoup plus harmonieuse entre les premiers peuples et la nation québécoise. Et je vous dirais que nos conseils de bande aussi, il y a un changement là qui doit se faire là, au niveau de toute cette discrimination-là, là, parce que ça nous touche toutes, pas juste les femmes, mais nos hommes aussi.
À votre connaissance, ou selon ce que vous savez, est-ce que c'est une situation qu'on voit ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde?
Elle existe ailleurs dans le monde, malheureusement, mais au Canada, on est le seul pays à travers la planète qui a une loi qui régit anciennement les sauvages, maintenant on nous appelle les Indiens. Donc, c'est le seul pays à travers la planète qui a une loi bien précise pour administrer le bien-être et de nous mettre sous tutelle là, toutes les peuples autochtones. Ensuite de ça, c'est une loi qui, malheureusement, va donner une certaine autorité aux communautés de décider qui est inscrit, qui ne l'est pas. L'Alberta, on a été des années à attendre avant d'être inscrite au sein des conseils de banque. Kanawagi est un exemple. Alors, malheureusement, il y a ce racisme-là et cette violence latérale qui s'est développée au fil des 30 dernières années. Peut-être pas aussi radical que Kanawagi, mais je vous dirais que ce n'est pas un cas isolé. Ça existe ailleurs et c'est triste.
Michèle Audette, je rappelle que vous avez été ex-présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie beaucoup, beaucoup.